Bonjour Michel Riault-Sarcey, professeur émérite d'histoire contemporaine et d'histoire du genre à l'Université Paris 8 Saint-Denis, est intervenu dans le cadre des mardis de l'IEA au LU. Le titre de sa conférence, « Comment penser la liberté ?»
Qu'apporte une historienne par rapport à une philosophe sur cette question ?
La différence est notable. Les philosophes ont tendance à penser la liberté comme un absolu, alors que les historiens, moi en particulier, parce que je pense qu'il y a de multiples historiens, j'essaye d'historiciser la question, c'est-à-dire comment, historiquement, on a pensé la liberté. Et du même coup, ça ouvre des horizons, ou plus exactement des perspectives, d'une actualité étonnante. Je vais tenter d'expliquer ça tout à l'heure, puisque la liberté dont je vais parler, c'est une liberté qui avait un sens extrêmement précis dans les années 1830. Elle signifiait le pouvoir d'agir complètement. C'est-à-dire d'agir au sens politique, d'agir au sens intellectuel, d'agir au sens matériel. Et avec cette définition qui est extrêmement exigeante, mais qui est tout à fait classique à cette époque-là, l'émancipation est à la mode. Dans ces années-là où aucune loi sociale n'existe, où il n'y a aucune possibilité de se référer à l'État, au sens le plus large du terme, où les gens tentaient de se débrouiller seuls, essayaient de combattre la misère, c'est bien le thème de 1848, eh bien, la liberté est à la mode. Mais pas la liberté au sens où nous l'entendons aujourd'hui, la liberté qui signifiait émancipation. Donc, chacun pensait depuis la Révolution française qu'il pouvait être libre au sens plein du terme. Illusion, peut-être, mais exigence dont on a oublié le sens. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, la liberté signifie tout simplement la liberté de s'exploiter soi-même. Or, dès 1848, des hommes et des femmes ont tenté de lutter contre cette chose qu'ils estimaient immonde, qui s'appelait le marchandage. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec l'ubérisation, si vous me permettez cette actualité, eh bien, le marchandage, qui a été aboli en 1848, revient de manière presque évidente, normale. À nous de retrouver le sens de liberté, c'est-à-dire à nous de retrouver le sens de l'émancipation, dont on a même perdu l'horizon.
1830, ça correspond.
1830 est considéré comme la révolution qui, normalement, devrait achever celle de 1789 en France. Mais pas simplement en France. 1830, comme en 1848, c'est toute l'Europe qui s'embrase au nom de la liberté. On croit que les hommes sont libres, et puis on se souvient, dès 1830, mais on s'en souvenait déjà en 89, un petit peu de ce qu'écrivait Rousseau. La liberté est déclarée, et pourtant l'homme est dans les fers. Qu'est-ce que ça signifie ? L'homme est déclaré libre et pourtant il est dans les fers, si je me souviens bien de la phrase précise de Rousseau. Chacun se rappelle de ça. Or, en 89, pas simplement la France, l'esprit des Lumières, l'esprit de 89, a pénétré la totalité de l'Europe et la liberté a été pensée possible. Quinet écrivait cette chose inouïe. La Révolution française a ouvert la voie à l'impossible. Donc, chaque personne se sent en capacité de devenir libre. La grande majorité de la population ne l'est pas. Tout simplement parce que, comme le dit très justement Hannah Arendt, les trois quarts des individus, hommes et femmes, sont assujettis aux nécessités de la vie. On n'est pas libre quand on passe le plus clair de son temps à travailler. On n'a donc pas de temps pour essayer d'exprimer sa pensée, pour écrire, pour développer son point de vue sur les places publiques. On n'a pas le temps d'être partie prenante de la chose publique. Et cette liberté explose dans les années 30. Pour la première fois, on voit sur la place publique, sur les places publiques, des individus qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est-à-dire ce qu'on appelle à ce moment-là, et pour la première fois presque, les prolétaires. Cette liberté est symbolisée, comme vous le savez, par ce superbe tableau de la croix, la liberté guidant le peuple. On a oublié ce que pouvait signifier cette liberté. Ce fut le premier tableau dont la copie est transportée en Amérique latine. c'est dire que la mondialisation, à cette époque-là, avait pour thème la liberté. Sachez que dans les années 30, entre 31 et 33, 34, des femmes écrivent, publient des journaux, dont l'un uniquement rédigé par des femmes, avec pour emblème l'émancipation du peuple et des femmes. Pourquoi 1830 ? C'est parce que, justement, ces années-là sont des années d'exceptionnelle liberté. En France, tout ça s'arrête en 1835, avec les lois de septembre, Louis-Philippe a alors acquis la possibilité de gouverner les hommes et les femmes, et du même coup, il n'y a plus de liberté. Et cette liberté va être reconquise, réaffirmée en 1848.
Qu'est-ce qui déclenche tout ça ?
Le facteur déclenchant de 1830 à 1848, c'est la volonté d'abolir la misère. On n'imagine pas qu'en 1848, le grand mot d'ordre de la Révolution, fait par une poignée de révolutionnaires parisiens qui ont imposé la République de manière totalement inattendue, avait un objectif : abolir la misère. Rendez-vous compte, on imagine que c'est la République, c'est le triomphe de la République. Non, ça va bien en deçà. C'est précisément mettre un terme, certains vont même jusqu'à dire, abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils n'avaient absolument pas imaginé que la révolution industrielle, qui commençait à peine, pouvait être incompatible avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Les utopistes eux-mêmes, Fourier en particulier, était particulièrement lucide, puisque dès 1808, Fourier expliquait qu'il était impossible d'imaginer un progrès compatible avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Il va beaucoup plus loin, il estime qu'à partir du moment où on pense que l'exploitation de la nature est indispensable pour le progrès, eh bien, dit-il, l'exploitation de la nature, c'est l'avant-courrière de l'exploitation de l'homme par l'homme. Un peintre remarquable au XIXe siècle a symbolisé cette critique radicale, c'est Courbet. On sait combien Courbet était sensible à la nature et il va inverser le rapport puisque dans ses tableaux, il humanise les animaux. C'est vous dire que cette conscience de la réalité était extrêmement aiguë. On a oublié ça parce que on a imaginé que le mouvement ouvrier mobilisé, organisé, commençait à la fin du XIXe siècle. On a totalement occulté ce qui se passait dans la première moitié du siècle, en France et ailleurs, en Europe. La question de la liberté était au cœur de toutes les revendications. Et une liberté qui avait un sens particulièrement social, donc l'abolition de la misère. C'est ce qui va se passer en 1848, les premiers décrets de 1848, c'est précisément le droit au travail et quelques jours après, l'abolition de l'esclavage. Donc c'est une forme d'accomplissement des promesses de la Révolution, ça va de soi. On est même allé beaucoup plus loin. C'est qu'on a estimé que la République, qui, on a oublié ce que c'était que la République, puisque la République, c'est la nôtre aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec les espoirs de 48. C'était une République démocratique et sociale. Ça voulait dire que l'essentiel des mots d'ordre de 1848, c'était « les mots doivent devenir vrais ». On a perdu cette pensée-là, qui était quand même pas très radicale. À cette époque-là, on estimait que liberté, égalité, fraternité devaient devenir réelles. Et à ce moment-là, on sait que la liberté précède l'égalité. Impossible d'être égal à l'autre si on est préalablement non libre. Quelqu'un qui n'est pas libre n'a pas la possibilité de débattre. C'est pourquoi le suffrage dit universel qui a été donné en 1848, ce suffrage, eh bien, on sait parfaitement qu'il ne peut pas résoudre tout. Il faut tout de suite qu'il s'applique au côté social, c'est-à-dire que la République devienne démocratique et sociale. On l'a oublié parce que la Révolution de 48, en France en particulier, s'est immédiatement ou presque transformée en répression avec la répression de la révolte de juin 48. Pourquoi la révolte de juin 48 ? Tout simplement parce que les ouvriers qui ont vu précisément mettre à bas, en quelque sorte, leurs espoirs, les ateliers nationaux qui avaient été ouverts en 1848 pour répondre à ce droit au travail, pour satisfaire ce droit au travail, eh bien, l'abolition des ateliers nationaux, la fermeture, plus exactement, des ateliers nationaux, a suscité une révolte parce qu'on voyait que les grands espoirs, c'est-à-dire l'abolition de la misère, jusqu'à peut-être l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, n'avait plus lieu d'être avec cette République nouvellement pensée, avec ces élus qui n'avaient plus rien à voir avec cette République auquel ils aspiraient. Les élus, pour l'essentiel, étaient des légitimistes masqués ou des républicains du lendemain masqués. Et donc, ils ne voyaient plus d'issue avec la répression de juin 48, c'est les espoirs d'une véritable république qui s'effondre. République, étonnamment, qui se confond quelquefois avec cette fraternité dont on a oublié le sens avec le mot même de communisme. Fraternité était presque l'équivalent du mot communiste, puisque la première revue qui sort, la revue Fraternité, c'était une revue communiste. Nous voyons émerger dans les années 40 ce communisme dont on a oublié le sens, ou plus exactement dont le sens a été dévoyé depuis 1917. Je dis bien depuis 1917 parce que c'est presque quelques semaines, quelques mois après la prise du pouvoir par les bolcheviks que l'esprit de liberté qui était retrouvé avec les soviets nouvellement constitués, eh bien, se perd dans les sables mouvants de la bureaucratie et le parti se substitue au prolétariat. Là encore, c'est pourquoi on a oublié le sens des mots. L'objectif donc d'aujourd'hui, de l'historienne, pour revenir à la question que vous m'avez posée, c'est de rétablir cet espoir d'antan qui donne à penser que les mots ont perdu leur sens émancipateur. Et pourtant, la devise républicaine est toujours là. On l'a vu affichée avec beaucoup de solennité lors de la prise de fonction du nouveau président de la République. Eh bien, j'ai très envie de lui rappeler à ce président de la République nouvellement élu en France le sens des mots égalité, fraternité qui émane des années 1830. Sachez que en 1830, en 1848, là encore, on a oublié que les Français se battaient, que les révolutionnaires se battaient pour la liberté de la Pologne. La mondialisation, c'était aussi l'internationalisation des luttes. Là encore, avant l'existence et la constitution de la première internationale, qui date des années 60, comme vous le savez, du 19e siècle.
Mais comment on peut tirer un enseignement de l'histoire à partir du moment où on fait le constat que aujourd'hui n'est pas comme hier, vous l'avez dit, hein, la République n'a plus rien à voir, le contexte n'a plus rien à voir, l'homme se fait exploiter par lui-même, par l'intermédiaire de la machine.
S'exploite lui-même, oui.
Ouais, c'est ça. L'ubérisation.
J'ai un avis assuré, tout à fait opposé à l'ubérisation, parce que
c'est le
décloisonnement, c'est-à-dire c'est la perte de l'esprit collectif. L'homme est né, l'homme au sens humanité du terme, est né dans une société où il est confronté à ses congénères. Et du même coup, c'est donc le collectif qui doit l'emporter sur l'individu. Et on a perdu ce sens parce que l'individualisme a remplacé justement cette collectivité.
Michèle Riault-Sarcey, historienne du politique et du féminisme, est l'invitée du magazine.
dans les années 1840, on n'imaginait absolument pas la liberté incompatible avec la liberté collective. Donc l'historien, qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte ce qu'il devrait apporter parce que l'histoire a été écrite de manière continue, de manière linéaire. Les historiens traditionnels ont tendance à valoriser l'événement qui advient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'événement qui, précisément, est issu de conflits pendant un temps relativement court. On va dire, par exemple, aujourd'hui, si on fait l'histoire dans 100 ans, un président de la République est élu, il a 39 ans, etc., etc. On va oublier toutes les batailles qui précèdent, tous ceux qui ont perdu. Et cette perte, si vous voulez, du conflit qui est le moteur de l'histoire, est en fait à l'origine de ce manquement, de cet oubli, de ces zones d'ombre, puisqu'on ne tient compte que de ce qui advient. On va dire, en 48, c'est la République qui a triomphé. Certes, c'est la République tout court. Or, l'espoir, c'est-à-dire ce qui a fait le mouvement de l'histoire, c'est précisément cette tension, c'est la République démocratique et sociale, ceux qui voulaient que les mots deviennent vrais. Donc on a oublié. Le but de l'histoire maintenant, enfin celle que je préconise, c'est une histoire discontinue. C'est-à-dire qu'il faut retrouver ces espoirs d'antan, ces événements non advenus qui nous permettent de comprendre des résurgences dont on ne comprend pas le sens aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, dans les places publiques, en Espagne, aussi bien en Grèce, aussi bien en Italie, on retrouve, et bien sûr aussi ce que l'on a appelé le printemps arabe, on retrouve les mêmes mots qui ressurgissent. Liberté, égalité, comme si ces mots n'étaient pas accomplis, comme si ces promesses n'étaient pas accomplies. On ne peut retrouver le sens de ces mots qu'en récupérant, comme le disait très justement un philosophe allemand qui s'est suicidé pour ne pas être pris en 1940 par le nazisme. Donc Walter Benjamin expliquait très justement qu'il faut récupérer les déchets du passé pour comprendre cette actualité nouvelle qui est en fait une remémoration d'espoir inachevé.
Et cette récupération ne se fait pas en douceur ? Elle passe par le mouvement révolutionnaire, nécessairement ?
Pas obligatoirement mouvement révolutionnaire, mouvement qui se réapproprie le sens des mots. Jusqu'alors, on ne peut pas dire que les Nuits debout et autres assemblées publiques ont été violentes. C'est précisément à ce moment-là qu'il faut être attentif. Qu'est-ce qu'on récupère ? De quoi on se souvient ? Qu'est-ce que ça rappelle ? Et le rôle de l'historien, c'est le rôle de tout médiateur, de tout guetteur, de toute personne attentive à la transmission de la connaissance, eh bien, c'est de dire que ces mots étaient déjà prononcés il y a quelques années, c'est le moins qu'on puisse dire, et du même coup, on voit un sens un tout petit peu entaché quand on valorise uniquement la démocratie côté suffrage. On sait très bien que le suffrage n'est que le résultat, normalement, devrait être que le résultat de débat. On a manqué de débat, non pas que les débats n'aient pas été ultra nombreux dans les médias, mais on a peu entendu la parole de ce que l'on appelle globalement le peuple. On a peut-être entendu les tribuns, mais on n'a pas entendu la parole du peuple. Or, ce que réclament les personnes qui aujourd'hui veulent s'approprier la liberté pour eux-mêmes, eh bien, c'est précisément de pouvoir exprimer leur point de vue, leurs espoirs. Et si j'ai une critique à faire à cette campagne électorale actuelle, c'est précisément qu'on a entendu les dits représentants du peuple, mais que pour l'essentiel, la population qui s'est largement mobilisée, qui a écouté, eh bien, elle s'est tue. Enfin, non pas de son fait, mais de ceux qui sont censés la représenter. La démocratie, c'est pas tout à fait ça.
Merci à Michel Riault-Sarcey, auteur du Procès de la liberté, paru aux éditions La Découverte, pour sa libre participation à ce programme réalisé dans le cadre des mardis de l'IEA OLU. Thank you.
La démocratie, c'est d'abord le débat. Et donc, à l'issue de ce débat, normalement, il devrait y avoir le vote, mais seulement à l'issue. Il a manqué cette étape fondamentale de débat entre les citoyens et tous ceux qui vivent sur notre territoire, parce que je n'oublie pas tous ceux qui n'ont pas encore le droit de vote.